Bonjour, alors c'est l'histoire d'un dessin, ou plutôt c'est l'histoire de centaines de petits dessins sur une bonne centaine de pages qui sortent de leur cadre et qui s'en vont vivre leur vie de dessin tout au long de cette centaine de pages. Alors il y a des policiers, il y a des terroristes, il y a des enfants, il y a des écureuils, des fantômes, il y a un cimetière, il y a des couples qui font l'amour, il y a du rouge, du bleu, du noir, et au milieu de tout ce capharnaüm, évidemment, un petit bonhomme à lunettes. Le dessinateur lui-même, Luz, que je suis très heureux de recevoir aujourd'hui pour évidemment évoquer ce livre, Catharsis, livre exceptionnel, livre hors cadre à tout point de vue, puisque c'est non seulement le récit de votre catharsis, mais l'outil de votre catharsis. Et tout ça à la fois après le traumatisme du 7 janvier, où vous avez littéralement pataugé dans le sang de vos amis de Charlie Hebdo en arrivant quelques minutes.
J'ai eu la chance de ne pas être rentré dans la salle de rédaction. J'ai vu juste des traces, j'ai vu peu de choses, juste des traces par terre et puis des gens à terre aussi. Et des gens à terre qui sont toujours là aussi. Je pense à Webmaster. Simon, je pense à Philippe Lançon, je pense à Fabrice Nicolino qui sont là, qui luttent et qui donnent aux autres, à ceux qui sont entiers, un courage exceptionnel.
Alors, tout ça donne évidemment ce livre Catharsis dont je parlais. Alors, je pense que le plus simple pour dérouler l'histoire, c'est de partir du livre. Le plus simple pour partir du livre, c'est peut-être de partir de la couverture du livre, dont j'aimerais que vous me parliez.
C'est un redessin, en fait.
C'est un, pardon ?
Un redessin.
Un redessin.
Un redessin. Dans le sens où c'est espèce de personnage un peu sidéré. Qui nous regarde sans nous regarder, qui voit qui perçoit sans voir, peut-être. C'est le premier bonhomme que j'ai dessiné quand j'étais interrogé par les flics, au 36 Quai des Orfèvres, le jour même. Alors que dans ma tête, dans mon esprit, dans mes mains, j'étais persuadé que je ne pouvais plus du tout dessiner. En tout cas, c'est ce que j'ai dit le lendemain, quand on s'est tous réunis pour repartir. Et moi, j'ai dit, je ne sais pas si on fait un numéro là dans la semaine, moi, je vais peut-être écrire, mais je ne pourrais probablement pas dessiner. Et quand je me suis remis à dessiner, au bout d'un moment, j'ai repensé, mais comment ça se fait que j'arrive à dessiner ? Où a été le déclic ? Le déclic, ça s'est fait finalement chez les flics quand ils m'ont demandé qu'est-ce que j'avais vu. Et du coup, j'ai fait un espèce de dessin automatique, comme des dessins au téléphone, sauf que j'étais en garde à vue, mais j'étais interrogé.
Interrogé. Alors, d'ailleurs, ce dessin, il y a une page pleine de ce dessin qui commence, vous racontez finalement, comment vous racontez dans le livre, comment vous avez raconté aux policiers.
Ouais. C'est vrai que c'est un redessin dans le sens où là, j'ai redessiné ce que j'avais dessiné, cette page que j'avais faite au 36 Quai des Orfèvres. Et c'est un redessin parce que c'est un renouveau de mon travail, et c'était étonnant de voir d'avoir repensé à ce brouillon, à ce truc que j'ai jeté après, qui était déjà un dessin qui me parlait et qui m'interrogeait. Et du coup, quand il a fallu que je redessine ce dessin-là, et quand il a fallu faire une couverture, quand il y a eu toutes ces pages qui ont été faites, quand finalement c'est devenu un livre, ce qui n'était pas forcément prévu, ce n'était pas forcément prévu au départ, il fallait que je mette ce bonhomme qui m'interrogeait moi, parce que peut-être que ce bonhomme, il interrogeait les autres aussi.
Alors en même temps, si on regarde bien cette couverture, il n'y a pas que le personnage, il y a autre chose.
Il y a la feuille de papier.
Il y a un cadre.
Il y a un cadre. Il y a un copain qui m'a dit, qui n'a pas vu la feuille de papier, qui a dit que c'était comme une... qu'il trouvait ça génial de mettre une touche play. Il voyait le triangle comme une touche plaie et que c'était une entrée dans le livre, et peut-être que c'est ça aussi. C'est peut-être un moyen d'entrer dans une nouvelle ère, peut-être, je ne sais pas.
Alors, ce cadre, il est ouvert ?
Ouais. C'est ouvert. C'est marrant parce que Charles m'a raconté, c'était parmi des petits débats de dessinateurs qu'on avait, qu'il comprenait pas pourquoi je fermais pas mes traits. Moi, je disais, j'ai besoin d'ouvrir les trucs, de laisser de l'imaginaire, de la place à l'imaginaire. Et il a effectivement dans les moments de dessin, souvent on convoque les copains, on convoque on convoque la réunion de réaction, on convoque et souvent je pensais toujours à Charles qui me disait mais putain, finis tes traits, fais quelque chose, après tu vas mettre de la couleur, et un pot de peinture sur Photoshop, etc.
Mais voilà, parce que non, s'il fallait fermer les traits, c'était pour une raison très précise, vous disiez Charbes, hein, c'est ce que vous avez raconté déjà dans des interviews,
pour pouvoir
ensuite retravailler le dessin à Photoshop.
Ouais, exactement, exactement, c'est un truc très con, mais je pense que c'est peut-être les pages, les dessins dans lesquels les traits sont les moins fermés, parce qu'on ne sait pas si... Parce qu'il faut les fermer soi-même, en fait. Parce que qu'il y a un travail du lecteur.
Le lecteur.
Ouais, le lecteur, ouais. Mmh. Ouais, le lecteur, c'est pas que par paresse.
Oui, parce que...
Mais aussi, la matière, elle est volatile, en fait. Même ce que l'on voit, c'est volatile. Donc le dessin, il a besoin aussi de montrer que la matière est volatile. Je pense que le fait de ne pas fermer ses traits, ça permet de les imaginer, de montrer que qu'il y a encore de l'espace à conquérir et de l'espoir à conquérir.
Alors c'est aussi un objet, hein, un objet lourd, solide.
Ouais, c'est lourd.
Une grosse couverture cartonnée.
Ouais, je pensais pas que ça allait être aussi lourd. Ouais. Un beau papier.
Ça tranche avec le papier
de Charlie, qui est toujours un peu dégueulasse.
C'est vous qui l'aviez demandé. Vous avez demandé ça spécifiquement ?
Non, c'était. Il y avait une série de collections quand j'ai demandé à Alain David, l'éditeur, de l'aide. Quand je lui ai dit, j'ai ces planches, qu'est-ce que j'en fais ? Il m'a dit, on va peut-être essayer d'en faire un bouquin. Et quand il m'a montré. Qu'il y avait d'autres bouquins comme ça, une couverture cartonnée. Je me suis dit, c'est chouette, on va en faire un objet, on va en faire un bel objet. Et j'aime bien l'idée que...
Vous avez envie d'un bel objet, envie d'un objet plutôt à la Charlie Hebdo, quoi.
Peut-être même pas un livre, d'ailleurs. C'est un livre, oui, c'est sûr, ça s'ouvre.
Ça y ressemble.
mais de me dire que c'est un...
Si c'est pas un livre, c'est quoi ?
Je sais pas. C'est un objet. C'est un objet qui a permis moi, en tout cas, de me reconstruire. Et puis, je pense que c'est un objet. Pour moi, c'est un objet parce que c'est un truc qui est fermé. C'est un truc que je pourrais plus jamais ouvrir. Donc, c'est un bloc comme ça. C'est un bloc. Et peut-être que c'est un bloc aussi pour les autres.
Vous pourrez plus jamais ouvrir. Vous voulez dire au sens propre ?
Au sens propre, ouais.
Vous pourrez plus jamais ouvrir ce livre ?
Non. 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 C'est fait. C'est fait. Mon histoire.
Vous allez l'ouvrir, ne serait-ce que pour le dédicacer aux gens qui vont vous demander de le dédicacer.
Ouais, mais comme ça, je vous la première page. Mais c'est dur, en fait. Je ne pourrais pas l'ouvrir pour me le réapproprier. C'est un livre qui sert à approprier déjà ce que je suis, moi, en fait, quelque part. C'est un. Je ne sais pas comment dire, c'est un bloc, en fait. C'est aussi peut-être que les gens, quand ils le. J'ai envie que les gens le lisent, le relisent. J'espère que c'est un bouquin aussi généreux, mais j'ai envie qu'à un moment donné, qu'ils le conservent comme un objet, un bloc de ce qui s'est passé. Et puis après, aussi pour se dire, il faut recréer d'autres, des objets, il faut recréer d'autres, des bouquins, il faut passer à autre chose.
C'est drôle que vous disiez ça, parce que vous avez donné une interview à Mediapart, et la journaliste de Mediapart raconte qu'au début de l'interview, vous l'observez comme à distance. Puis qu'à la fin de l'interview, vous l'avez pris, paraît-il.
Ah ouais Ah oui, d'accord, c'était le truc, le premier... Ouais, l'interview de Mediapart filmée, ouais. Ah oui, d'accord. Mais effectivement, je venais de le recevoir, en fait, ce jour-là. Et c'était un peu bizarre, ouais, je me tenais un peu à distance.
En même temps, je veux dire, bien des écrivains qui écrivent avec des mots ont vécu la même expérience. C'est-à-dire que là, c'est la première fois que je vois ce processus se dérouler avec des dessins. Mm-hmm. Mais en littérature, ça s'observe très fréquemment. Et je veux dire, de faire sa catharsis avec un livre, après un événement très, très traumatisant, et ensuite, une fois que c'est dans le livre, c'est à distance, c'est fini.
Ouais.
C'est fini, et ça sert à ça.
Oui, ouais, ça sert à ça. Mais je pense qu'en fait, j'ai pas fait. Enfin, ça, je sais pas. C'est pour ça que j'ai du mal à dire qu'est-ce que j'ai fait avec ça, parce que j'ai fait pas une catharsis avec un livre, j'ai fait une catharsis avec des pages, avec, avec du beau papier en plus aussi. Pour une fois, j'ai dessiné dans ma vie du
sur beau papier. Voilà.
Ouais, ouais. Du canson, ouais. Du 222 grammes, je crois, quelque chose comme ça, quelque chose de plus de dense et de plus. Ouais, quelque chose qui avait besoin. Qui avait besoin de. Où la plume avait besoin de s'exprimer, où la plume avait besoin de crisser. Et c'est avant tout. C'est étonnant d'imaginer que ça a été au départ plein de feuilles, plein d'idées volantes, plein de feuilles volantes, et que là, c'est un tout. Et c'est vrai que c'est pour ça que je me dis que c'est un objet, c'est, ouais, c'est peut-être un tout, en fait. Pour moi, c'est un tout.
Alors, c'est drôle, si vous parlez de plume, moi, je me souviens de planches de Gottlieb dans Pilote dans les années 70-80, ouais, où il mettait en scène des dessinateurs avec des fans, et la seule question que le posaient les fans aux dessinateurs, c'était « Alors, vous travaillez à la plume ou au pinceau ?» et moi, je croyais que c'était une question juste pour rire. Et en fait, pour vous, ça a été, je crois, très important de travailler à la plume,
ouais, ouais,
et pas
ouais.
au pinceau.
Ouais, c'est aussi...
C'est quoi la différence ?
La différence, moi, j'ai toujours... Je travaille encore un peu au pinceau, mais... Et le pinceau, il a quelque chose d'assez étonnant, il a quelque chose d'assez charnel. On travaille en apnée avec le pinceau. Enfin, moi, en tout cas, je travaille en apnée. C'est-à-dire qu'on sent pas du tout le... Il n'y a pas de contact avec le papier. Donc, en fait, on est très funambule, en fait. On est
dans le
vide.
Pardonnez ma naïveté, mais quand on travaille au pinceau, ça veut dire qu'on trace son premier trait au pinceau. Ou on...
Ah non, on peut faire des crayonnés, des machins, des choses comme ça. Oui, ouais, moi je fais des crayonnés, enfin, pas pour ce bouquin, mais c'est surtout, il y a ce truc où on arrête de respirer et le truc passe tout seul. Il y a vraiment un sentiment d'apnée, c'est le grand bleu, quoi. C'est le grand bleu pendant 3 secondes. Par contre, j'ai eu besoin d'utiliser la plume pour l'entendre, en fait. Un beau papier, la plume pour l'entendre et pour avoir un rythme. Aussi, parce que le pinceau, moi, c'est des pinceaux, c'est pas des pinceaux, c'est des pinceaux, je sais que Pétillon utilise les mêmes, il y a plein de gens, où il y a des encres dedans, donc on recherche pas, etc. La plume, il y a un rythme, il y a un pinceau, paf, on remet la plume, clac, dans la bouteille, non, clac, clac, il y a un rythme.
Et
c'est
bruit,
peut-être le bruit du pinceau.
Le bruit de la plume, c'était important.
Oui, oui, c'était important parce que c'était... C'est marrant toute cette histoire de pinceau, de Gottlieb, etc. Est-ce que vous travaillez à la plume ou au pinceau ? Mais en tant que dessinateur, on se pose la question et on en discute entre nous. Et moi, j'étais très fasciné par la dextérité de Cabu à la plume. Et moi, je ne m'étais jamais vraiment mis à la plume. C'est bizarre, c'est quand même, j'avais commencé déjà un petit peu dans Chez Rien avant. Et là, il y a eu besoin de, je ne sais pas, c'était une autre manière de convoquer un ami, de posséder, en tout cas, d'être possédé par la manière dont Cabu était travaillé, en fait, peut-être. Et puis un truc con, j'arrivais pas à écouter de musique, très peu. Et dans les trucs nocturnes, on a besoin de compagnie. C'est pour ça que les dessinateurs sont souvent assez mélomanes, parce qu'on se fait chier, en fait, au bout d'un moment, à dessiner tout le temps. On a besoin de s'entourer d'une atmosphère, on a besoin d'un compagnon, et la musique est une compagnonne, et la musique n'était plus là. Donc il y avait la musique de cette putain de plume qui m'accompagnait, et c'est à la fois un peu Cabu, et puis c'est à la fois un peu tout ce que j'avais perdu, tout ce qui était mort dans les acouphènes que j'avais à ce moment-là, quoi.
Alors, quand on vous interroge, vous avez donné plusieurs interviews à plusieurs médias avant celle-ci, quand on vous interroge sur les influences, les précédents auxquels vous pouvez faire référence pour Catharsis, vous citez le plus souvent deux livres. Alors, vous citez La nuit de Druillet.
Eh bien non, c'est pas moi qui l'ai cité. Ah bon ? C'est Vincent Brunner qui l'a cité, qui m'en a parlé dans Slate, avec d'ailleurs Vincent que je connais bien, avec lequel j'avais bossé, et qui me dit mais tu as lu La Nuit ? Et je dis bah non, j'ai jamais lu La Nuit de Drouillet.
J'étais sûr que c'était vous qui avez lu.
Non. Eh bien mais du coup c'est bien parce que moi j'ai acheté, j'ai acheté juste après j'ai acheté La Nuit, j'ai regardé les trucs, je dis oh et qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je peux le regarder ?
Ah,
je peux le regarder ?
Ah ben ouais, avec plaisir.
Et je savais pas qu'il avait. Je connaissais pas ce. Je connaissais pas ce livre de apparemment cathartique pour Philippe Duruyer que j'ai rencontré une fois qui est un mec complètement.
Puisque ça s'ouvre sur
dingue, magnifique.
Sur la mort de sa femme en fait.
Ah putain c'est ça.
Ben oui. C'est drôle, vous ne l'aviez pas vu en le lisant pour la première fois, non ?
Je ne l'ai pas lu encore.
Ah, vous ne l'avez pas lu, vous l'avez...
Non, non, d'accord. J'ai acheté, je n'ai pas lu. J'ai ouvert, je me suis dit, c'est un Druyer complètement fou. Et... Ouais,
comme souvent
Druyer. Et en même temps, je ne l'avais pas... Ouais. Je n'avais pas, je ne sais pas encore...
Elle est très dure à trouver, mais peut-être qu'après...
Ouais, moi aussi, j'ai eu du mal à le trouver. Ouais,
après cette interview, ils
vont le... Bah ouais, au moins que ça serve à quelque chose. Ouais,
ils vont le rééditer.
Putain, c'est incroyable, c'est incroyable. C'est beau, hein, c'est... Et après, c'est marrant parce que je ne sais pas comment je vais le lire, je ne sais pas d'ailleurs comment les gens vont lire mon bouquin, mais ça, j'ai envie de me balader, en fait, dans ce truc-là. Il y a l'air d'y avoir une histoire, mais comme dans Druyer, les histoires sont peut-être parfois moins importantes que la manière dont les pages vous explosent à la gueule.
Et c'est le cas, là, elles vous explosent vraiment.
C'est génial, génial, c'est fantastique, putain. En plus, il y a des chiens.
Il avait peut-être pensé à vous. Et alors l'autre, mais alors celui-là, vous le citez.
Ouais, je le cite.
Les idées noires de Franquin.
Ouais, ouais. C'est une anecdote marrante, cocasse. J'étais avec Camille, ma femme. On se baladait. On se baladait dans la campagne avec entouré de officiers de sécurité. Et puis, on avait envie de prendre un café. Et puis, on trouve un café dans un coin. Et puis, il y avait des trucs qui étaient des bouquins pour les enfants, etc. Et il y avait Idées noires de Franquin. Et on voit un gars qui le prend. Et déjà, on était en train de me dire, tiens, en fait, Idées noires de Franquin, ça serait bien que je le relise. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu. Et c'était un mois après tout ce qui s'est passé. Et puis je vois un mec en jogging qui ressemble presque à un Franquin qui a mangé trop de pâté quoi, et qui prend le livre et qui a l'air de le découvrir. Un type qui n'est pas le public de Franquin, pas un mec déprimé, loin de là, en jogging, qui avait posé ses enfants faire des manèges et tout ça, et puis qui était bien dans son repli personnel et qui se marre, qui explose de rire à chaque page. Puis on était là en train de le regarder, on avait notre verre de rouge chacun. Puis on s'est dit, putain, c'est dingue, quoi. C'est dingue, il se marre comme une baleine au bouquin le plus... Comment dire ? Un bouquin écrit, dessiné par un type en pleine dépression, qui raconte la mort, qui raconte finalement comment un dessinateur se réapproprie sa mort et sa déprime. Enfin, sa mort. Oui, enfin, la mort.
L'idée de sa mort
et la déprime, la hantise de la mort. Mmh. Et c'était. Et après, du coup, quand il a posé le truc, moi, on l'a regardé et on dit ah, mais ouais, ça, c'est génial, tu te rappelles de ce machin, etc. Notamment le cavalier foudroyé, un truc d'une beauté incroyable. Et lui, qui se marrait à chaque case. Et je le voyais se marrer comme un gosse, en fait, sur un truc horrible. Mais qui est très drôle. Et du coup, je me suis dit, c'est ça que je veux faire dans ma vie. Je veux faire marrer les gens, je veux pouvoir faire encore marrer les gens, mais avec les moyens du bord, c'est-à-dire les moyens du bord, avec ce que je traîne, avec ce que les autres traînent, ce qu'on traîne tous d'une certaine manière. Et je ne pourrais pas dire que c'est là que Catharsis est né, parce que c'est pas vraiment, mais il est né bien plus tôt, il est né le 7 en fait, avec chez les flics. Mais il y avait un truc, je me disais, on peut y arriver. on peut y arriver. On peut faire un bouquin avec. Je crois que l'idée du bouquin est venue là, finalement. L'idée de faire un bouquin est venue là. Ouais.
Alors, il est très compliqué de trouver comment parler de cet objet, ouais. Catharsis, parce que c'est un objet qui sort tellement des normes habituelles. Il y a peut-être... oui, à tout point de vue. Il y a un biais par lequel on peut l'aborder, c'est de parler des personnages, en fait, puisque c'est un livre plein de personnages.
Ouais.
Alors certains sont, je dirais, un peu attendus. Vous avez parlé de votre compagne, Camille, qui est un personnage très présent dans le livre. On la voit beaucoup. Vous mettez en scène en train de faire l'amour avec elle.
En train de faire l'amour ensemble, surtout.
Oui, avec elle.
Surtout. Oui, avec elle. Oui. Oui. Enfin, oui, c'est ça fait partie des la troisième histoire, parce que les histoires sont posées là, comme je les ai dessinées, en fait. Première histoire, c'est celle-là. Puis après, j'ai dessiné une deuxième, puis c'est la deuxième. Et après, j'ai dessiné la troisième, c'est la troisième. La troisième histoire, qui arrive après deux histoires difficiles, dont une, la deuxième, qui a un rêve assez atroce, qui est un peu comique, mais qui est un peu atroce. Et je sais pas, j'avais le besoin, dans les mains, de dessiner ce moment heureux où on a... refait l'amour, en fait. Et au départ, je voulais appeler retour de libido. Et quand elle a vu cette planche, on a pas mal discuté. Parce que c'était ça. C'était ça aussi. C'était de permettre d'en discuter ensemble. Et elle a dit, mais... Ouais, tu vois, c'est super, moi aussi je l'ai vécu comme ça et tout. Je dis, ben voilà, c'est nous deux, c'est Eros et Thanatos. Parce qu'elle travaille sur le féminisme, sur la sexualité, sur l'érotisme, sur la pornographie. Et puis moi j'étais en train de patauger dans Thanatos et elle, c'est Eros. Et c'est tout d'un coup une planche. Qui est, je pense, qui est la première preuve de vie dans le bouquin, en fait. Parce qu'on parle de...
Laquelle ?
Celle-là, celle où on fait l'amour, en fait. Parce que... Et la première, peut-être finalement la plus pudique, peut-être la plus pudique, qui a l'air très impudique, parce qu'on se dévoile, mais bon, c'est... Enfin, pareil. Voyez, quand même, c'est pas un bouquin à mettre dans les mains des petits-enfants, en tout cas. Parce qu'il y a de la bite, il y a de la chatte, il y a de la sueur, il y a du... Oui, enfin, l'amour, il y a du léchage de tétons, il y a du...
Oui, d'accord, ça reste quand même très regardable par
oui,
des...
Oui. Mais sur Facebook, vous savez, on peut mettre des images avec ce qu'on voit de nos jours.
Bon, monsieur.
On cache les seins des femmes, alors les bites des dessinateurs.
Alors, vos rêves sont un autre personnage, notamment ce rêve dont vous parlez, aussi figure dans les premières planches du livre, ce rêve absolument atroce dans lequel vous rêvez à la fameuse réunion, la conférence de rédaction fatale du 7 janvier. Vous avez la moitié du visage
arraché,
déchiqueté.
Ouais.
Et alors il y a un personnage extrêmement inattendu pour le coup et très poétique, c'est Ginette.
Ouais.
Ginette.
Ouais. Ben, Ginette, c'est marrant parce que je suis parti de l'histoire. Je voulais raconter comment il y avait une boule qui grossissait au ventre. Et l'histoire, j'ai commencé à raconter. Je ne savais pas où j'allais, en fait. Je ne savais pas du tout où j'allais. Et la boule me parle. Et effectivement, c'est pesant. Ça vous prend la tête, le sexe, la bouche, la gorge, le cœur, etc. Et dans le déroulé, je fais un truc assez sérieux au début. Et puis le personnage commence à surgir dans mon dessin même. Il commence à avoir des yeux au bout d'un moment. Je dis, mais au fait, qu'est-ce que je vais en faire de ce personnage-là ? Et qu'est-ce que je vais en faire de ce personnage qui est là ? Comme si, pour la première fois de ma vie, j'ai un personnage de BD qui est né à la fois dans mon ventre et sur le dessin. Je me suis dit, cette boule au ventre, il faut... Je le dessine au moment que... En fait, quand je le dessine, je le comprends, en fait. C'est vraiment une planche où je comprends ce que je suis en train de vivre en même temps. J'ai dit, mais je vis avec un animal de compagnie, je vais vivre avec cet animal de compagnie pendant des années. Et moi, j'aime beaucoup les chiens, mais je ne veux pas d'animal de compagnie parce que j'ai un peu, je me méfie du côté propriétaire.
Mais Ginette, elle est vraiment apparue après le 7. Ginette, vous ne la connaissiez pas avant le 7.
Non, je ne la connaissais pas avant le 7. Mais en même temps, on le connaît. On a tous des Ginettes.
Ah,
c'est des boulots
vendus. Des petites Ginettes.
Des petites Ginettes, mais parfois des grosses. Mmh. Il suffit de perdre son boulot et on a une énorme Ginette en soi. Il suffit d'un divorce. Souvent, les Ginettes apparaissent au travail, d'ailleurs, je pense, d'une humiliation. Quelle qu'elle soit, et il y a une boule au ventre qui monte, et on ne sait pas comment faire, et là, elle vous envahit. Et moi, je me suis dit, faut que je lui donne, faut que moi, je l'apprivoise, comme un animal de compagnie. Et il faut que je lui donne un nom d'animal de compagnie. Et comme j'aimais un peu trop les chiens, je n'allais pas lui donner un nom de chien, et je lui donnais un nom de Ginette. Alors après, je m'excuse auprès des Ginettes, parce qu'il y a des Ginettes qui sont... Mais c'est le premier truc où je me suis dit, je lui donnais un nom pas terrifiant du tout. J'aurais pu lui donner la mort, je ne sais pas, ou un truc. Satan.
En même temps, on sent bien que c'est une manière de vous l'approprier.
Ouais, enfin, et de l'humilier un peu.
De copiner.
De copiner. Mais aussi de l'humilier un peu. De lui dire, c'est qui le patron, c'est moi qui décide. Voilà. C'est moi qui décide. Peut-être que tu m'envahis, mais moi, je décide de t'appeler d'un nom un peu stupide. Et le truc qui est rigolo, d'ailleurs. Je vais voir aujourd'hui un psychiatre, un des nombreux psychiatres, qui lui m'a dit c'est super, je raconte cette histoire de Ginette, c'est super, c'est un excellent outil pour que je vais utiliser avec mes patients pour qu'ils se réapproprient finalement ce truc-là et qu'ils n'en aient pas peur. Parce que une boule au ventre, on peut en avoir peur. Donc je vais lui dédicacer dans quelques heures. Ouais. Je suis très heureux qu'il la découvre.
Vous faites breveter Ginette.
Ouais,
vous déposez la marque.
Il y a peut-être quelqu'un qui l'a déjà fait. Ginette copyright.
faut vérifier.
Mais après, peut-être qu'il va y avoir des débats entre les freudiens et les lacaniens. Mais on m'a déjà proposé de venir dans un débat de psychanalystes ou de psychiatres. Moi, j'ai dit non, voilà, ça va. Démerdez-vous, j'ai un bouquin. Faites vos lectures.
Je vous donne le concept.
Ouais.
Et alors, parmi les personnages les plus sidérants, les plus époustouflants du livre, les Kouachi. Les Kouachi qui apparaissent dans deux planches. Absolument bouleversante. Alors la première planche montre ce qui a été, sans doute, peut-être, je ne sais pas, votre vision en arrivant rue Nicolas Appert au siège de Charlie Hebdo, le massacre une fois accompli. C'est-à-dire que vous les avez vraiment vus sortir.
Oui, j'étais juste dans la rue. Enfin, j'ai entendu les coups de feu, je me suis replié dans la rue. Et par curiosité, parce que on est des journalistes aussi, donc on est des gens curieux. Enfin, on est peut-être plus des gens curieux que des journalistes d'ailleurs. Et puis voilà, je me vois arriver en arrière et j'ai un flash vraiment d'un quart de seconde où je dis mais c'est hyper beau, c'est hyper beau.
Parce qu'ils sortent en marche arrière.
Ils sortent en marche arrière. Très dans une espèce de danse. Comme ça. Et il y a eu un truc avant d'être terrorisé par ce qui se passait, de comprendre ce qui se passait, j'ai l'impression, et puis aussi c'est con, parce qu'on voit ces trucs-là, on est comme devant, c'était un truc bête, comme devant la télé aussi. On voit un spectacle. Et quelque part où c'est un spectacle aussi qu'ils ont voulu donner d'une certaine manière. Ils sont dans la com en faisant ça. Ils veulent donner un spectacle. Ils sont très contents qu'il y ait des gens qui prennent des vidéos, etc. Genre quand le pauvre flic a été abattu, je pense qu'en dehors du fait de le tuer, il y a l'idée du spectacle en fait là-dedans. Et qu'il ne faut pas nier ce petit paramètre chez les tueurs en fait.
En même temps, ils savent pas qu'ils sont filmés à ce moment-là.
Il y a quelque chose. Ils savent qu'ils ont un rôle, en fait. Un rôle à jouer dans un espace médiatique. J'en suis complètement persuadé. On sait comment marche le monde des médias. C'est plus un plateau télé, le monde des médias. Évidemment, ça n'a jamais été ça, mais là, c'est. On est sous surveillance médiatique permanente. Surveillance ou pas, ou sous sous un œil permanent, l'œil de son voisin qui a son portable, etc., etc. Et eux, je pense, je suis persuadé de ce truc-là, qu'il y a une espèce de... Ouais, il y a un show. Ce que Daesh fait, c'est un Daesh ou Al-Qaïda, c'est des shows. Ils font des shows, en fait, pour amener les gens, pour convaincre les gens, de dire « ça va être cool ». Très cool de couper des têtes, c'est très cool de tuer des gens, c'est très cool de manier une mitraille parce que vous aurez votre heure de gloire à la Warhol, on va dire.
Mais en même temps, là, dans cette double page, c'est vous qui créez le show, puisque c'est dans cette double page absolument époustouflante, ouais. On voit comment, effectivement, cette vision fugace que vous avez de Touachi sortant de l'immeuble se transforme en ballet.
Mais c'est effectivement ce que j'ai vraiment vu, vraiment un laps de temps très, très court, et je me suis dit, il faut que je me force à le raconter. Il faut que je me force à raconter. Ça a été les planches les plus difficiles à faire, et très soulageantes, parce que après après ça fait du bien de dessiner de la beauté au milieu de la merde, en fait, et de dire attendez. C'est, vous n'avez pas gagné, parce que moi je peux trouver de la beauté dans la tuerie que vous avez faite. Donc à ce moment-là, si on arrive à trouver, c'est con, hein, c'est un peu baisé de la tête, mais si on peut trouver matière à continuer à vivre, matière à continuer à s'émerveiller, même au milieu d'un massacre comme celui-ci, ça veut dire que nous on continue à vivre, et qu'ils ne peuvent pas gagner, et qu'on n'a pas peur, et qu'on n'est pas terrorisé.
Alors de la beauté et de l'innocence. Puisqu'il y a cette autre planche où apparaissent aussi les Touachi, alors dans un cadre très très différent, puisqu'ils apparaissent sous les traits de deux enfants qui regardent dessiner, j'imagine, le dessinateur que vous étiez à 20 ans, ouais. Avec ses longs cheveux raides et ses t-shirts moches.
C'était moi, hein, j'étais tout à fait comme ça, puceau avec des poils au cul sur le menton. Dès le début, j'avais fait une petite planche dans Charlie. J'étais complètement atterré par l'idée de. Il faut revenir aussi au truc. Il n'y a pas que des dessinateurs qui ont été tués. Il y a des flics, il y a eu des juifs, il y a eu une psychanalyste, il y a eu des écrivains, il y a eu plein de gens. Et il y a eu aussi des dessinateurs. C'est vrai que je parle beaucoup de ça parce que j'en suis. Et aussi des gens qui allaient au supermarché, d'ailleurs. C'est con. C'est con à dire. Il y a aussi des gens qui sont allés au supermarché.
À l'hypercachère.
Bref, une petite parenthèse. Et moi, j'étais obsédé par l'idée que de tuer à cause d'un dessin, pour un dessin, ou de tuer des dessinateurs, c'est tuer une partie de son innocence qu'on a en soi, parce qu'un dessin, on a tous dessiné. Vous avez dessiné.
Hélas.
Non, mais justement, pas hélas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est aussi un mystère. Pourquoi les gamins dessinent ? Ils dessinent pour reproduire le monde. Après, l'autre mystère, c'est pourquoi ils arrêtent. Bon, ça, c'est moins mystérieux, c'est parce qu'on leur dit qu'il faut travailler. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont dit « Tu peux continuer, t'es bon à l'école, mais tu peux continuer, on te file des crayons, etc. » Donc moi, j'ai continué. Il n'y a pas d'innéisme dans le dessin. Il y a juste ce mystère de comment on continue, pourquoi on continue, et pourquoi on s'obsède à continuer. Mais donc, les Kouachi aussi ont dessiné quand ils étaient gamins. Ils ont aussi eu cette petite part d'innocence que tout le monde a. Même Poutine a dessiné, même Hitler a dessiné.
Sans doute.
Il aurait peut-être eu une plus...
Il a peint.
Il aurait peut-être eu une carrière beaucoup plus... Ouais. Beaucoup plus en tout cas, il aurait... Oui, il aurait bon, ouais, bref, mais, bref, qu'importe. Et du coup, je me disais comment ça se serait passé si à un moment donné, on avait pu... J'avais pu rencontrer ces gamins à l'époque, quand moi j'ai dessiné, quand moi je débutais le dessin, quand je débutais Charlie. J'étais aussi, après, dans l'innocence de ce qu'est le dessin de presse, de se dire, c'est marrant, on va dessiner des conneries. Et puis les gens croient que c'est des petits Mickey, c'est pas grave, en fait. Donc on est protégé aussi par ce truc d'être des comment dire, de dessiner des petits Mickey, des trucs pas graves. Ce qui a changé après. Ça a complètement changé. Et je me suis dit, c'est marrant, j'aurais pu les rencontrer. j'aurais pu les rencontrer. Ça aurait plutôt venir, autour d'une dédicace, un truc, etc. Et ça n'aurait peut-être pas changé les choses, parce que c'est pas peut-être de dessiner un petit peu plus avec un dessinateur de quelques minutes qui aurait fait changer leur vie, mais peut-être, on ne sait pas. Et que c'est étonnant. Et qu'on se dit qu'à un moment donné, c'est étonnant. Quel est ce parcours qui les a amenés jusque-là? Quel est... Et on n'en saura rien, en fait. On n'en saura rien. On aura beau faire des études sur les Kouachi, sur Koulibaly, sur comment leur famille, etc. On n'en saura rien. On ne sait pas pourquoi exactement. Quel est le déclic qui se passe dans la tête?
En tout cas, avec tous ces personnages qui figurent dans votre livre, on voit bien quel a été le ressort de la création. C'est de transformer finalement en personnages.
Ouais.
Alors évidemment, tout votre entourage. Je parlais de votre compagne, mais aussi les policiers qui vous accompagnent et qui vous protègent maintenant. Ils sont cinq, hein, vous êtes protégés par cinq policiers.
Ouais, bon,
voilà. Donc ils sont aussi devenus des personnages du livre, on les voit notamment dans cette planche-là.
Ouais.
Et au-delà des personnes humaines, vos fantasmes, vos hantises, vos peurs, vos obsessions,
C'est bien, moi je trouve ça chouette que vous ayez dit qu'un des personnages aussi était le rêve, en fait. Mmh. C'est aussi de se dire qu'on peut créer un personnage de ces d'entités obsédantes.
De tout.
Et c'est bien. C'est bien. On peut faire tout en dessin. Et c'est ça qui est merveilleux. On peut dessiner cette chaise qui est là. Et puis on peut la faire voler,
si on veut. C'est ça qui est bien.
Je peux vous dessiner tout nu, par exemple.
Oui, bah, allez-y.
sur le franquin. Non, mais c'est un outil merveilleux pour l'imaginaire. Mm. Et du coup, c'est ça aussi. C'est à un moment donné, il y a la tête qui coince, et de dire attention, c'est dans ma tête. Bon, c'est dans ma tête, ça veut dire que c'est coincé dans un endroit où théoriquement c'est mon imaginaire qui est là. Donc il faut que mon imaginaire reprenne le dessus. Donc il faut en faire quelque chose de ce qu'il y a dans ma tête. C'est ça le but des têtes, c'est d'en faire quelque chose.
Bien sûr. Alors il y a un personnage qui figure un tout petit peu moins, sur une planche, mais assez peu, qui est un autre personnage important de l'histoire, c'est le personnage de la star mondiale que vous êtes devenu. Puisque du jour au lendemain, après le 7 et surtout après le numéro suivant, la fameuse couverture verte, tout est pardonné, que vous avez dessinée, du jour au lendemain, vous êtes devenu, alors je ne sais pas comment dire, un symbole, un emblème, un enjeu. Alors, ce qui se trouve personnifié alors dans une autre image, qui n'est pas une image de votre livre, mais qui est une image de télévision, c'était sur le plateau du Grand Journal.
Vous avez soutenu Charlie Hebdo. Vous êtes l'une des premières à avoir affiché le visuel « Je suis Charlie » sur votre compte Instagram. Eh bien, ce soir, on a envie de vous faire rencontrer l'une des figures historiques de Charlie Hebdo. Luz est l'invité du Grand Journal. Madonna.
Nice to meet you.
Ravi de vous rencontrer.
Thank you so much for supporting us.
Thank you so much for being a
freedom fighter. Merci beaucoup à vous d'être un défenseur de la liberté.
Yeah, we try.
Je pense qu'il y a, je sais pas, je pense qu'il y a aussi des choses d'adolescent ou de post-adolescent, justement, une image sur un trapèze qui m'a complètement bouleversé, mais qui était justement aussi une vraie liberté, qui était tout d'un coup, il y a eu de l'excommunication aussi autour de ça. Il y a eu des religions qui sont battues contre cette image. Et tout d'un coup, comment se fait-il qu'une image aussi belle, aussi simple, aussi généreuse, puisse donner lieu aux foudres, non pas de Dieu, mais des représentants de Dieu,
ceux qui
s'en réclament. Et ça, j'ai trouvé ça tout bêtement stupide.
Alors, avant de parler de l'image du trapèze, cette image-là de Luz et Madonna, vous la regardez comment ?
C'est bizarre, ouais. C'est bizarre et en même temps, j'ai pas de. Enfin, c'est, de votre sens, c'est bizarre parce que de toute façon, je regarde pas du tout ce qui s'est passé. Enfin, ma gueule, c'est pour ça que je regarde pas trop ma gueule à la télé, par ailleurs et ailleurs. Et il y a. En fait. Quand on m'a dit, il y a Madonna qui aimerait voir quelqu'un de Charlie, etc., j'ai dit, incroyable, pourquoi pas ? Et pourquoi pas parce qu'il y a aussi eu une espèce d'élan de solidarité ailleurs, je veux dire, aussi grâce aux réseaux sociaux pour une fois, où il y avait Louis Siquet, il y avait comment il s'appelle, enfin il y a plein de gens.
Ah bah non, attendez, tout Hollywood a été
clowné, machin,
tout Hollywood, tous les Oscars ont été
Et c'était. C'était complètement dingue. C'est-à-dire, tout d'un coup, on voyait un truc qui était complètement dingue. Tous ces gens qui ne lisaient pas Charlie.
Mmh. Ah oui.
Et donc, Hollywood, oui. Et qui nous soutiennent, qui nous supportent, a priori, comme ça, sans avoir vu ce truc-là. Et Madonna. Alors là, j'avais vu ça, je me suis dit, putain.
Quelle était votre perception de Madonna avant ? Vous aimiez ? Vous étiez fan ou...
Ah, mais moi, c'était juste une figure, en fait.
Voilà. La musique.
À la musique, moi, je suis pas plus.
Vous étiez pas ça. Madonna,
non,
voilà.
Non. Par contre, oui, non. Moi, sur le premier album, là, je sais plus comment il s'appelle. Enfin, tous les premiers trucs très, très innocents et très pop des débuts. Après, il y a aussi un glissement un peu bizarre, un peu religieux, et puis non religieux, et puis anti-religieux, et puis après ça, bon. Mais c'est une figure féminine, féministe qui m'interpelle, en fait.
Non, mais pour tout vous dire, avant le 7 janvier, on va dire, on vous imaginait plus volontiers dessinant Madonna et la caricaturant dans Charlie Hebdo sous les traits d'une artiste mondialisée mainstream,
bien sûr.
Plutôt qu'en fan éperdu d'amour. Voilà.
Ah, mais là, c'est pas un fan, là. C'est pas un fan. Non, mais je parle de ce côté... figure féminine forte. Et ça, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse. C'est quelque chose qui m'intéresse. Justement, le fait qu'il y ait des après, il y a peut-être. Après, j'arrive pas à savoir quelle était la part de com là-dedans. Mais il y avait ce truc où je me suis dit, il y a Madonna qui est là. Est-ce que c'est sincère? Et après, malgré tout, c'est un canal, c'est quand même un show, c'est casse-gueule. Donc au début, j'ai dit non, et après, j'ai dit oui. Et je me suis dit, je vais la tenir dans les mains pour lire ce que je fais, en fait, depuis longtemps. C'est-à-dire, on prend le temps, et il y a du silence, etc. Et je m'apprête à faire ça, et puis paf, à me prendre dans des trucs, et puis je vois quelque chose, je vois un peu de sincérité. En plus, elle a un peu la même taille, elle me fait penser à Ina... Ouais. Donc il y avait tout décoloré, tout ça. Je dis, ah bah tiens, c'est... Puis je sais pas, j'ai sorti une espèce de truc de sincérité. Je dis, bah ouais. Après, le seul truc qui est compliqué, c'est l'entertainment qu'il y a autour. C'est-à-dire, en fait, le truc qui est bizarre, c'est l'applaudissement, c'est ce truc un peu étrange, où tout d'un coup, finalement, on vous applaudit pour quelque chose que vous n'avez pas forcément choisi.
Bienvenue au grand journal.
Ouais. C'est pour ça qu'après, j'ai pas fait. Après, c'est pour ça qu'après, je suis là, ici, tu vois,
On s'applaudit moins.
Ouais, et c'est très bien. C'est très bien. Moi, j'avais dit à Angèle, Natacha Press, qu'on avait dit, comment on fait? Alors, pas de plateau avec des claps et des machins, etc. C'est pas possible. Pas pour ça. Et même plus pour autre chose, en fait.
Ah oui. Plus jamais.
Je pense, j'en sais rien. Après, je vais me retrouver.
Il y en a beaucoup qui disent plus jamais, puis finalement.
Ouais. Mais c'est vrai que c'est, on débarque. Moi, je débarque dans le grand show médiatique, en fait, parce que c'est un grand show médiatique. Moi, j'ai pas compris. On n'a pas compris tout de suite ce que c'était que tout ce bordel. J'ai déjà dit ça. Ailleurs, je sais plus à qui, mais. Quand on est arrivé, moi j'ai mis hyper longtemps à comprendre que c'était mondial cette histoire, en fait.
C'est vrai.
C'est pour ça que quand j'ai vu les tweets, quand j'ai vu que Louis Siquet portait un t-shirt Je suis Charlie, je me suis dit, c'est incroyable. incroyable. Quand j'ai vu que les Simpsons avaient fait dans son générique de fin, avaient mis la gamine avec Je suis Charlie, j'ai dit, c'est incroyable. Et puis, tout ça, c'est incroyable. Ta gueule dans Voici, c'est incroyable. T'as ton cul dans Galas, c'est incroyable. Puis au bout d'un moment, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe en fait qu'est-ce qu'on est en train de devenir?
Vous l'avez compris aujourd'hui?
J'en sais rien, je sais pas.
Qu'est-ce que vous avez compris aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez compris des ressorts de cette mondialisation de l'émotion, on va dire, de cette mondialisation de l'indignation
Ce que j'ai compris, c'est surtout qu'on n'est pas armé pour se prémunir de... On n'est pas armé pour se prémunir de l'émotion, déjà, de l'émotion des autres, et encore moins armé pour se prémunir de l'émotion médiatique. Et encore moins armé pour le balayage qui arrive après. C'est-à-dire le fait d'être une fois l'émotion médiatique, une fois que vous êtes posé au milieu de cette émotion médiatique, bah vous êtes vissé dans les médias. Vous êtes vissé dans les médias.
Vous êtes vissé.
Vissé. Vous êtes vissé. Vous êtes un personnage, en fait. Vous êtes un personnage médiatique.
Vous voulez dire que vous êtes vissé dans un rôle?
Ouais, vissé dans un rôle, ouais. Ouais. Et après, ça va être utile pour tout et n'importe quoi. Ça va être utile pour tout et n'importe quoi. On va vous sortir en tant que personnage. Parce que il y a une telle personne qui a dit un truc sur Charlie, et puis tant qu'on va le sortir, on va dire ah bah tiens, on va utiliser Luz parce que c'est un bon client en fait, finalement. C'est intéressant. Ça fait peur en fait aussi. Parce que après je me suis dit il y a des gens qui sont dans des drames personnels. Qui font la couverture des médias nationaux ou des médias internationaux, ce sont des faits divers, ce sont des gens normaux. Moi, je suis un peu moins normal dans le sens où je suis déjà dans un journal. Je sais, je connais un peu les ressorts des trucs. Mais je voyais aussi le procès Outreau avec des gens qui ont patauge là-dedans, et puis y compris Badawi qui a menti, machin, tout ça, puis qui me donnait un peu paumé, mais qui sa paumerie, elle est ultra médiatisée, elle peut plus s'en sortir. Et moi, je me dis, je pense être un peu... Moi qui pensais être un peu armé parce que je connais des journalistes, en fait, on ne l'est pas du tout. Quand on est dans un tourbillon comme celui-ci, on peut être complètement à chez menu. Et des gens qui vivent un fait divers simple fait divers, mais qui bousillent leur vie, ils peuvent être vraiment de la chair à buzz jusqu'à la fin de leur vie.
Alors, on va reparler de votre rôle, du rôle dans lequel vous avez été vissé. Vous dites, juste pour sortir de l'histoire Madonna, et évidemment, comme on est curieux ici, moi, cette histoire d'image de trapèze nous a beaucoup intrigués parce qu'on n'avait pas de souvenirs. Et donc...
Ah là Super, merci.
Et donc, Adèle Bellet, c'est bien celle-là.
Hein, ouais, voilà. Celle-là, ouais.
Et on comprend que l'adolescent, le post-adolescent que vous étiez... On était comment avez-vous dit, ému?
Ému, ouais. Et après j'ai dit aussi, j'ai parlé d'excommunication. Alors c'est très marrant dans un truc médiatique de dire excommunication, c'est excommunion en fait, c'est ça. Hein,
ah non, on dit excommunication.
Ah bon, j'ai dit juste en fait. Ah oui, je pensais que j'avais fourché. Voilà. J'avais fourché.
Ouais. Alors le rôle. Vous dites, j'ai pas encore bien compris dans quel rôle on m'a vissé, mais. Il y a une hypothèse quand même. Quand on voit l'ampleur du soutien à Hollywood, Obama, etc., c'est que vous soyez devenu aussi, on va dire, le symbole d'une violence exercée, alors non pas seulement par les frères Kouachi, mais par l'islam en général. C'est-à-dire que vous soyez devenu un emblème, une icône, un enjeu pour toutes sortes de gens qui, pour une raison ou pour une autre, ont envie de s'en prendre à l'islam et aux musulmans.
Ah oui, oui, c'est possible. Après, il faut juste être, faut juste faire gaffe à ce qu'on dit. Aussi, je veux dire le côté parce que c'est vrai que c'est déjà compliqué d'être un étendard pour les gens bien. On peut être aussi un étendard pour les enfoirés.
Voilà.
Voilà. C'est ça que tu veux dire.
En gros, c'est ce que je voulais dire.
Ouais, voilà, d'accord, ok.
En gros, c'est ce que je voulais dire.
Ben, le problème, c'est qu'on ne décide pas d'être un étendard, en fait. Le problème, c'est qu'on n'a pas décidé... Enfin, c'est aussi le truc qui est très bizarre, c'est qu'on ne dessine pas dans l'idée d'être un... On ne fait pas un bonhomme avec un gros nez en se disant « je lutte pour la liberté d'expression ». Tout d'un coup, on devient des standards par défaut, parce que des amis, des copains ont été tués, et parce que d'autres personnes ont été tuées dans un ensemble d'actes terroristes pendant plusieurs jours. Et faut juste continuer à être soi-même et dire je me bagarre contre le Front National, je me bagarre contre les y compris contre les gens qui me prennent comme y compris contre les salauds qui me prennent comme un standard. Il faut être et même quelque part on se bagarre à un moment donné, c'est ce que j'avais dit aux Inrock, contre la symbolique dans laquelle on est plongé. Je dis aux Inrock au début là, quelques jours après. Disons, faut faire vachement gaffe. On n'est pas des. Moi, en tout cas, il n'y a pas de héros là-dedans.
Mais alors, sans parler de salauds ou d'enfoirés ou je ne sais quoi, des images quand même extrêmement inattendues. Alors, non seulement l'image de la manif du 11 janvier avec vous, tout près du Premier ministre hongrois Orban, du Premier ministre israélien Netanyahou, etc. Bon, voilà, une image assez surprenante. Ou même dans les jours suivants, par exemple, l'image de Manuel Valls sortant du Conseil des ministres, avec très très visible dans sa chemise le fameux numéro vert de Charlie Hebdo.
Je n'avais pas vu ça, moi.
Ça vous fait quoi, ça ? Ça vous fait marrer déjà, c'est une première chose.
Ça me fait marrer. Bah, je voudrais le voir sortir au Conseil des ministres avec la prochaine couve, c'est tout.
La prochaine.
J'ai pas du tout ce que c'est la prochaine.
Chaque mercredi,
Valls devrait sortir avec Charlie sous le bras, etc. Et le problème, c'est que c'est ça quand je dis qu'on est vissé à un moment donné dans les médias, c'est qu'on est un outil, on est un alibi, on peut être tout ça nous échappe. Alors après, il m'a pas sorti moi de sa poche non plus. Il a sorti Charlie et puis il fait ça la loi sur le renseignement où tout d'un coup on utilise le mot Charlie alors que tu dis mais attends mais c'est un journal qui se bagarre contre tout ce qui est liberticide, etc.
D'ailleurs dans les numéros suivants vous avez dessiné Valls, Valls exactement comme avant
comme avant.
Si ce moment du 11 janvier et de la fraternisation universelle et de la grande copinerie universelle, finalement, n'avait pas existé.
Ah bah oui, on ne va pas être prisonnier de l'émotion non plus. Ou prisonnier des bisous qu'on n'a pas voulu avoir aussi.
Par exemple, quand vous regardez ça, il n'y a pas chez vous de colère par exemple, il y a un mot que vous n'avez pas prononcé, c'est le mot récup. Qu'on aurait pu prononcer.
Oui, moi j'ai peut-être dû dessiner ça quelque part.
Récup.
Ouais, la récup. Mmh. J'aurais peut-être dû dire.
Le dessiner.
Bah, en même temps, c'est ça. Quoi. Là, je parle, mais je suis meilleur au dessin qu'à l'oral.
Vous n'êtes pas mauvais à l'oral quand même.
Ouais, ça va. Mais effectivement, il y a la récup. Pourquoi pas qu'il y ait il peut y avoir de la bonne récup, c'est-à-dire aussi des gens qui utilisent l'image de Charlie pour avancer, à faire des fanzines, qui publient la couverture, qui se le réapproprient. À un moment donné, le problème du dessin, c'est que c'est fait pour que les autres se le réapproprient.
Et ça, pour terminer, c'était de la bonne ou de la mauvaise, ça ?
Ça, réappropriation ?
Non, le récup. La bonne ou la mauvaise récup ?
Je sais pas pour lui, hein, tu veux dire. Bah, pour nous, de toute façon, c'est la récup, donc ça change rien pour nous. Pour lui, je sais pas si en même temps, vous voyez sa gueule, quand même. Ça suffit.
D'accord.
ça suffit.
Alors, il y a un personnage on a parlé de tous les personnages qui sont dans Catharsis, il y a un personnage qui n'y est pas, c'est le prophète Mahomet.
Ouais.
Il n'y est pas.
Non.
Il était sur la couverture, il n'y est pas.
Ouais.
Pourquoi il n'y est pas ?
Parce qu'il était déjà sur la couverture, et que ça suffit, et qu'il était partout, et qu'on s'est dit au revoir à ce moment-là, je pense. Je ne pensais pas qu'on se disait au revoir à ce moment-là, quand je le dessinais pour la couverture. En tout bout de course d'idées. Mais après, je je voyais pas où je pouvais le dessiner. Qu'est-ce que j'allais dire de plus, en fait? Et c'est triste de dire au revoir à un personnage, mais c'était ça. Alors, sauf que je l'ai déjà dessiné. Là où je l'ai dessiné, et c'est là où je me suis dit qu'à un moment donné, il fallait peut-être confirmer dans ma tête qu'il fallait que j'arrête de le dessiner, on fait des dédicaces. Après, j'ai fait plein de dédicaces justement sur ce numéro, là, etc., autour de moi. Et aussi beaucoup aux flics, d'ailleurs, parce que les équipes changent, etc. Donc, il y a toujours un flic, vous pouvez me dessiner. Bien sûr. Et je faisais je le redessinais encore et encore, parce que je n'avais pas d'idée. Et c'est exactement, c'est ce que j'ai expliqué, c'est ce que j'ai dit dans l'interview de Zinrock où j'ai dit que j'arrêtais de dessiner Mahomet, parce que il ne m'inspirait plus comme Sarkozy. Et c'était la même chose, pour moi c'est la même logique. J'arrête pas de dessiner Mahomet parce que j'ai peur ou que j'en sais rien, ou autre chose. C'est juste parce que ça ne m'inspire plus. On va pas se forcer à dessiner, mauvais. On va pas s'obliger à être mauvais.
Ça paraît tout à fait naturel. Ouais, et ouais. En même temps, il y a eu des réactions du genre « Ah ben voilà, il a la trouille ».
Bien sûr.
Alors la fameuse Jeannette Bougrat, ouais, ouais. Voilà.
Ceux qui disent ça, c'est ceux qui nous ont mis, sur un piédestal qu'on n'a pas voulu aussi. C'est ceux qui ont oublié qu'on fait juste En fait, c'est ça le problème, c'est qu'on fait juste un boulot de dessinateur et tout d'un coup, ça s'est enflammé de partout. C'est-à-dire, ça s'est enflammé jusqu'à ce que le journal soit attaqué, décimé. C'est-à-dire que c'est une espèce d'énorme quiproquo en disant « Oh, les gars, c'est un dessin. Oh, les gars, je suis un dessinateur. » Et justement, l'ex-ministre, elle veut des héros, elle veut qu'on soit des héros. Mais ceux qui sont, enfin, genre, évidemment, si on était des héros, ce serait décevant. Si on était là à batailler, à utiliser le dessin comme une arme. Enfin, j'ai vu Plantu a fait un cartooning for peace, a fait un dessin. Un bouquin avec des dessinateurs, machin, ça, les fantassins du crayon ou un truc comme ça, fantassins de la liberté d'expression, je sais pas quoi, avec un soldat avec un crayon. Ça va pas, non? C'est complètement con de faire ça. On n'est pas des guerriers. Même de le dessiner avec un crayon, c'est débile. En plus, avec un crayon de bois que plus personne n'utilise. Dis donc, vous êtes super actif, vous.
Adèle Bello, voilà.
D'accord, ok. Ok, fantassin de la démocratie. Et moi, j'ai trouvé ça, mais c'est un contresens. Pour moi, c'est un contresens. On n'est pas là à être à engager des guerres. C'est pas nous qui engageons des guerres. On n'est pas là à être fantassin, à être en première ligne. Et je trouve ça quelque part. On est ni des courageux ni des lâches.
Alors en même temps, vous savez très bien qu'il y a une citation de Sharp qu'on ressort toujours et qu'on a beaucoup ressorti après le 7. Je la cite de mémoire, qui est je préfère vivre de, je préfère mourir debout que de vivre couché.
Ouais.
Avait-il dit.
Bah, moi aussi, je préfère vivre debout que.
Non, mourir.
Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Je vois que vous avez dit vivre debout. Ouais.
Je préfère mourir debout que vivre couché.
C'est vrai. On dit plein de choses dans les interviews aussi. Après, c'est Charles.
Il y a bien du combattant là-dedans, quand même. Il y a bien du soldat, il y a bien du quelque part du martyr, il y a bien un peu cette dimension-là.
Peut-être chez lui, il y avait un truc un peu. Ça date de quand, d'ailleurs, cette citation?
Je ne sais pas, après l'histoire des caricatures de Mahomet.
Après, je pense qu'il y a aussi. Je pense que Charles était peut-être.
Pourquoi c'est important le moment? Parce que les.
Ouais, je pense que c'est important, parce qu'il y a un moment donné où on nous a mis dans un rôle de combat. Enfin, de. Il y a un moment donné où on nous a dit vous êtes des irresponsables. Mais je pense que.
Alors ça, c'est au moment de la publication des caricatures de Mahomet.
Ça, c'est au moment de cette deuxième. Enfin, c'est le deuxième scandale. C'est-à-dire que. C'est précisément. Il y a eu la publication des caricatures de Mahomet. Celle des Danoises qu'on a publiées dans Charlie, aussi pour les mettre en regard de ce que nous. En regard de ce que l'on fait dans Charlie. De ce qu'on faisait dans Charlie en disant si ça pose problème, regardez ce que l'on fait. On avait fait un numéro que vraiment. vraiment à l'intérieur, complètement dingue, etc., anti-religieux, mais partout, de toutes les religions, etc. Personne n'a parlé de ce qu'il y avait là-dedans, évidemment. On n'a parlé que des caricatures de la couve. Donc il y avait ce truc-là. Là, ça a commencé, genre le débat, la liberté d'expression, machin, tout ça, etc. Et après, il y a eu l'incendie en 2011.
Donc là, l'incendie des locaux de Charlie.
Des locaux de Charlie. Et là, on est en victime, donc on pleurniche, etc. On dit la liberté d'expression, tout ça. Et un an plus tard, il y avait le film, je ne me rappelle jamais du nom de ce film, un truc de truc sur le web qui tournait.
Ça va me revenir.
Sur Mahomet, voilà. Etc. Une connerie, un truc, voilà. Qui embrasse quelques esprits au proche Moyen-Orient et ailleurs. Et ça devient un truc d'actualité énorme. Bon. Et nous, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On est obligé de redessiner Mahomet, parce qu'il est dedans.
L'innocence des musulmans.
Voilà, l'innocence des musulmans. Parce qu'il est dans le... C'est le sujet du film, c'est le sujet du débat mondial. Comment on peut faire?
Vous vous êtes jamais senti des soldats? Vous vous êtes jamais senti des combattants? Des combattants de...
Moi,
des combattants. Non, c'était un vous collectif, en fait.
Ah.
Vous, l'équipe.
Non.
Des combattants
non.
de la liberté d'expression,
non,
des
non,
combattants
non, non.
de la laïcité.
Au niveau combattant, non, je crois pas. Non. On est des gens qui. Mais nous étions, nous sommes. Enfin, nous étions au sens collectif qui avec Cabu, etc. Il y avait cette idée de nous sommes des gens qui nous exprimons, mais au sens combatif, ça veut rien dire.
Tout de même, des gens comme Philippe Val ou Caroline Fourest, vous les avez jamais perçus aussi comme des combattants?
Ah, peut-être, ouais, je sais pas.
Peut-être.
Ouais, mais ça, après, ça, je veux dire, là, tu parles d'un truc collectif. Enfin, oui. Moi, là aussi, au sens du collectif de Charlie, moi, j'ai pas vu un. Moi, je vois pas. Moi, j'ai jamais perçu. Moi, j'ai jamais intégré ça, en tout cas, dans ma présence là-dedans, comme un truc genre, on y va et on monte sur les tabourets. Val avait un peu l'habitude de monter sur les tabourets.
Oui,
mais.
Enfin, je veux dire, toute l'histoire de la publication des caricatures danoises, franchement, il monte sur les tabourets.
Oui, il monte sur les tabourets. Mais après, il y a eu le truc. Nous, en tout cas, c'est très con, parce que nous, moi, j'ai toujours vu Val comme Val. J'ai pas vu Val comme le chef de Charlie.
Bah, c'était le patron.
Oui, mais c'était le patron. Mais quand tu... c'était le patron, il était surtout là, tu vois, ici, télé, machin, tout ça. Il était un peu plus discret pour faire fabriquer le journal. Nous, le journal fait à l'intérieur. C'est-à-dire le problème de Philippe et des édito de Philippe, c'est qu'on avait l'impression que c'était... qu'il y avait que ça qui définissait Charlie. Mais c'est pas vrai, parce que Charlie, à l'intérieur, c'était autre chose. À Charlie, c'est toujours été une espèce de grande cour de récré, avec des coups de gueule, avec des machins, avec parfois peut-être des gens qui montaient sur les tabourets, et aussi des gens qui donnaient des coups dans les tabourets, qui donnaient des coups dans les symboles.
Mais comment ça se passait entre les gens qui montaient sur les tabourets et les gens qui donnaient des coups dans les tabourets? Je veux dire...
parce qu'on a une grande salle de rédaction. Une grande salle de rédaction. Là, je peux monter sur le tabouret. Enfin, par exemple,
elle tient pas très bien.
Ah, bon, d'accord, ok. Si tu montes sur le tabouret, il y a les autres qui dessinent. Ou qui écrivent. Ouais. Puis on regarde les pieds de l'autre qui est sur le tabouret et dit on laisse faire. Hein. Ouais. On s'en fout. Voilà. Je pense qu'au niveau collectif, il n'y a pas ce truc de moi. Enfin, je reviens sur ce que moi je pense, sur ce que moi j'ai ressenti. Il n'y a pas ce truc de bravache, en fait. Et après, effectivement, il y avait des individus...
Vous ne ressentiez pas que ça pouvait être chez Val, chez Caroline Fourest? Vous ne ressentiez pas cette dimension bravache de l'intérieur?
Ah ben, non, mais sur le côté, effectivement, monter sur les tabourets, etc. Et puis Caroline Fourest n'avait pas été là longtemps aussi à Charny, non plus. Elle publie des articles au moment où Val était là, etc.
C'est-à-dire qu'il y avait vraiment, à l'époque, vous ressentiez ça comme il y a eux et nous, quoi. Il y a eux avec leur tabouret, leur moulinet, etc. Puis il y a nous qui sommes au pied du tabouret.
Un peu, ouais. Ouais, un peu. Tu vois, par exemple, on parlait de Charbe avec un côté combattant, etc. Bon, on sort une phrase de Charbe qui, effectivement, évoque ça. On peut sortir d'autres phrases de Charbe qui peuvent dire peut-être tout à fait l'inverse sur la symbolique et sur l'imbécilité, justement, des gens qui montent sur les tabourets. Je pense qu'on peut en trouver, mais des dizaines de milliers, parce qu'en plus, c'est un très bon écrivain, par ailleurs. Et en plus, on sort une phrase de Charbe, on ne sort pas un dessin de Charbe avec un Maurice Patapon qui sont en train de s'enculer, par exemple. Mais ça, pour faire des héros, on ne montre pas des Maurice Patapon qui s'enculent.
Alors, c'est si ça. Je vous pose toutes ces questions, c'est parce qu'on a pu avoir l'impression de l'extérieur. Moi, je ne connaissais pas l'équipe de Charlie, je ne vous connaissais pas, mais enfin, je voyais votre reflet médiatique, et puis je voyais le journal. On a pu avoir l'impression, à partir des caricatures de Mahomet, que finalement, le combat pour avoir le droit de faire rire à propos de ce qu'on voulait, à propos de n'importe quoi, avait pris le pas sur la simple envie de faire rire, quoi.
Ah ouais.
Vous voyez, c'était devenu plus important, voilà.
Moi, franchement, je ne m'en rends pas compte, honnêtement. Honnêtement, il y avait peut-être... après, il y avait aussi des débats internes sur le fait... on parle encore de laïcité, ça suffit, on va parler d'autre chose, mais en même temps, tu sais, il y avait un truc où aussi, un truc à faire son chacun a un peu ses monomanies. Alors après, il y a eu des monomanies plus fortes qui se sont exprimées plus fortement ou plus largement, tu vois, dans le canard. C'est aussi une espèce de monomanie laïque tout à fait légitime, même si moi je considère qu'on est avant tout des athées plutôt que des laïcs. C'est une petite nuance qui est la mienne.
Mais les monomanies s'exprimaient. Je veux dire, c'était un lieu où toutes les monomanies.
Ah oui, parce que Camus était complètement obsédé par les militaires. Dès qu'il y avait un truc sur les militaires, et puis il y allait à fond. Tignot était très obsédé par les patrons. Il dessinait les patrons dès qu'il pouvait. Honoré, c'était un peu pareil. Il aimait bien dessiner Gattaz. C'est le truc genre, vas-y, fais-le, parce que moi, je vais pas dessiner Gattaz. Puis moi, c'était la musique, et puis de dessiner des. De dessiner des cons qui font de la musique, Biolay, Delerme et tout ça. Donc il y avait une espèce de spectre large de la monomanie individuelle.
Et finalement...
Peut-être que sur la direction qui était prise, peut-être qu'il y avait un peu plus de trucs sur la laïcité, etc. Moi, honnêtement, je ne me rends pas compte parce que
Les dessins étaient quand même très présents. Alors après, on a dit, oui, Charlie, c'était que des couvertures islamophobes, etc. Ce qui est faux. Quand on voit, ça n'a rien à voir. Voilà. Alors, on a trouvé effectivement quelques couvertures. Ça vous fait marrer, ça?
Je ne sais pas. Non, c'est la gueule des personnages. Ouais. C'est un peu absurde.
Mais il y a la gueule des personnages, puis il y a ce que ça dit quand même.
Ah.
Le personnage de la femme voilée qui dit touchez pas à nos allocs.
Mais c'est pas une.
C'est les esclaves sexuels de Boko Haram.
Oui, mais on parlait pas de les esclaves sexuels de Boko Haram. On ne les situait pas comme des musulmanes. Si tu replaces le truc dans le contexte à l'époque. Enfin, c'est pas le.
Là, c'est quand même le. Vous voyez, c'est quand même ce qu'on.
Ah oui, moi j'ai pas du tout la même lecture.
Vous voyez quoi,
j'ai pas
là,
du tout la même lecture.
Quoi,
Moi, je me replace dans le contexte, parce qu'il faut se replacer à chaque fois dans le contexte aussi de l'époque. Effectivement, ce dessin est un peu confus, je crois. En fait. Attends, parce que... C'est ça, mon corps est en colère. Attends, mais pourquoi on a fait ça? Attends, parce qu'il doit y avoir un autre truc sur un débat sur les allocations à l'époque qui devait faire écho à ça. Et ça, je sens qu'on a mélangé plusieurs trucs.
Sans doute.
Non, là, ce que je vois, c'est une compréhension du dessin un peu bizarre. Et moi, je me suis marré juste sur la gueule des personnages. Ouais.
Alors, non, alors, si je vous pose aussi cette question, c'est parce que à votre place, la semaine dernière, il y avait Emmanuel Todd, à qui on a montré la même couverture, ouais, d'ailleurs, et qui a expliqué que cette couverture le faisait vomir.
Ah bon?
Oui.
Qu'est-ce qu'il avait mangé avant?
Je ne lui ai pas demandé. Je ne lui ai pas demandé.
Bon.
Mais en même temps, voilà, ça rejoint le reproche qui a été fait à Charlie Hebdo de d'être aussi sous couvert de dénonciation de l'intégrisme, un vecteur d'islamophobie, quoi.
Ouais, non, mais attends, il y a une couverture qui est un peu confuse. Alors, okay, moi, je veux bien voir qu'il est un peu confuse. Mais au-delà de la taxer d'islamophobe.
Ça rejoint les couvertures de Valeurs Actuelles et du Point sur le thème des immigrés dévoreurs d'allocations familiales.
Je pense que vous allez trop loin sur la. J'arrive pas à la voir comme ça.
Alors, sans doute qu'ils prennent isolément, non. Mais dans un contexte où on a aussi, en d'autres kiosques, quasiment chaque semaine, des couvertures, je disais, du Point, de l'Express ou de Valeurs Actuelles, où on retrouve les mêmes éléments, femmes voilées, musulmans, allocs, assistana, etc., est-ce que du coup, le fait d'avoir, j'allais dire, ces compagnons de kiosque, qui ne sont pas plus que des compagnons de kiosque, mais qui sont quand même des... Est-ce que vous n'êtes pas dit, ce serait quand même emmerdant si on nous amalgamait à ça, quoi. Et il y a le risque, vu la puissance
Je voudrais bien savoir, quelles étaient les autres couvertures à l'époque de ce truc-là.
Vous voyez, c'est les mêmes années.
Voilà. Il y a aussi un truc qu'il faut dire, qu'il faut expliquer, c'est que Charlie... parle aussi de l'ère du temps, de l'ère du temps médiatique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand les gens les médias s'excitent sur des débats complètement absurdes où ils mélangent tout, il faut pouvoir aussi en parler. Je pense, d'ailleurs, c'était l'histoire de la couverture... Charlie Hebdo, etc., sur la première couverture de Mahomet qu'on a faite, oui. Il y avait un contexte où, justement, les médias parlaient tout le temps. C'est-à-dire qu'il y avait des débats sur la charia va-t-elle arriver en France, sur, parce qu'il y avait, il y avait justement un débat sur la Libye. Et il y avait d'autres trucs partout où il y avait des débats pour, contre, oui, non, etc., avec ce personnage central qui était Mahomet.
Donc, ce que vous voulez dire, c'est que vous revendiquez le droit de faire du second degré, vous, par rapport à...
Bien sûr.
Ces débats-là.
Bien sûr.
Mais avec l'éternel risque de confusion que vous connaissez bien entre le premier degré et le second degré. C'est-à-dire qu'on dessine au second degré, on est pris au premier degré.
Je pense que c'est ça, c'est le problème. C'est le problème du quiproquo permanent avec le dessin aussi, peut-être.
Et on fait quoi ?
J'en sais rien. C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est parce que tu vois, par exemple, Valeurs Actuelles, t'as montré un truc. Ils n'ont pas mis un dessin, Valeurs Actuelles. Ils ont mis une photo, un truc, tu vois, dans le dur. C'est-à-dire qu'ils ont l'intention d'aller directement dans le premier degré de leur discours. Là, il y avait dans le dessin que tu as montré de Rhys, il y a un truc un peu bizarre à plusieurs rendez-vous, et que effectivement, là, je vois pas du tout.
On va arrêter parce que vous lui en parlerez.
Je me rappelle plus du tout.
Vous lui demanderez. Alors, faut lui demander vite parce que vous allez partir là.
Pas tout de suite.
Non,
pas
à la rentrée.
À la rentrée, ouais.
Alors, vous partez pourquoi là ?
Pourquoi ?
Ouais.
Mais parce que j'arrive plus à dessiner sur l'actualité, parce que ça n'arrive plus à me faire marrer, en fait. Ça n'arrive plus à me faire marrer. Parce qu'à un moment donné, il y a aussi un truc bizarre, c'est qu'à force, je pense qu'on n'a jamais autant analysé les couvertures de Charlie que depuis...
Le 14, enfin, ouais. Oui.
Et on analyse celles qu'on veut analyser, aussi. On n'analyse pas celle, je pense à une de Charles qui avait fait pisse au froc de rire. C'était Juppé avec une forme de fleur, là, avec un truc de fleur. Et puis c'est une tête de con absolument merveilleuse. Et pourquoi on n'analyse pas celle-ci ? Et pourquoi aussi les médias reviennent aussi, tu vois, prennent un bout de notre travail, un bout microscopique de notre travail. Et c'est ça aussi peut-être qui est difficile, c'est de se dire qu'est-ce que je peux faire comme dessin qui va pouvoir être... quelle légèreté on va pouvoir encore accorder au dessin ? Quelle légèreté on accorde encore au dessin de presse qui parle de l'actualité, etc. C'est pas évident.
Non, maintenant, la question est réglée. C'est légèreté zéro, je veux dire. Il n'y a plus d'innocence.
C'est ça. Il n'y a plus d'innocence. Moi, je me rappelle de ce truc. C'était Charles qui avait trouvé cette idée-là. C'était... justement à l'époque du film à la con, là où on avait sorti des dessins, puis c'était on avait fermé des ambassades à cause de nous, juste parce que moi j'avais fait un dessin avec Mahomet qui était le cul, qui était ouais celui-là, que je trouve très, bon, que je trouve marrant, moi. Bon, bah ouais, il est marrant. Ah, vous avez ri. Est-ce que Todd rit? Il vomit encore peut-être. Il vomit encore peut-être. Est-ce qu'il a encore mangé? Qu'est-ce qu'il a mangé? Et du coup, tu vois, si je fais un dessin comme ça qui me fait vraiment marrer et que je trouve drôle et que je trouve pertinent aussi, c'est-à-dire que tout d'un coup, de ce pauvre Mahomet, on en fait un personnage et de télé et de machin et qu'on lui fout de la paix aussi quelque part.
Ce qui est frappant dans ce dessin, c'est qu'il a surtout le vrai cul de Brigitte Bardot, quoi.
Tu sais, avec Google Images, on peut retrouver. Oui. je me dis que comment je n'arrive plus à trouver la légèreté aussi pour faire un dessin comme ça. Parce que on est analysé, suranalysé, et suranalysé au premier.
Pas seulement ça, parce qu'un dessin comme ça aujourd'hui, c'est peut-être, je sais pas moi, 10, 15, 20 églises qui brûlent au Niger, c'est peut-être des manifs au Pakistan avec des morts. Un dessin aujourd'hui, c'est peut-être ça.
Mais le truc qui est terrible, c'est que tu dis un dessin dans un journal français. Ça fait pas rire le monde entier, c'est sûr, parce qu'on n'a pas les mêmes humours, on n'a pas les mêmes codes, on n'a pas la même loi. On n'a pas la même loi sur le blasphème, par exemple. Alors là, c'est compliqué. Le problème, c'est la mondialisation. C'est une forme de mondialisation.
Oui.
La mondialisation du.
Le problème, c'est pas que ça passe à la une de Charlie Hebdo. C'est que le problème, c'est si aujourd'hui c'est à la une de Charlie Hebdo, du coup demain c'est sur CNN, sur Internet.
Est à l'intérieur de Charlie, en fait, le problème. Alors du coup, il y a un truc un peu bizarre, genre. Je pense que nous, on se fracasse contre cette innocence qu'on a, contre cette responsabilité qu'on nous impose. Ah oui, je finis ça, je suis un peu digressif, mais Charles avait trouvé une idée géniale. Donc, au moment où il avait ce dessin-là qui avait été publié, fermeture d'ambassade, prends pas le combat, c'est Charlie est un journal irresponsable, imaginez ce que vous faites à l'autre bout du monde. Mais nous, on n'est pas responsable de la géopolitique, on est un fanzine de 30 000 lecteurs à l'époque. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Vous nous dites, on ne dessine plus? On ne dessine plus l'actualité? Qu'est-ce qui se passe? Et avec cette polémique, Charles, il avait une idée géniale, il a dit, écoutez, on peut faire un truc, on fait un journal irresponsable, qui est le journal, notre journal, celui qu'on fait toutes les semaines, et on sort un journal responsable. Vous vous rappelez de cette... Non ?
Non.
Eh bien, journal responsable, c'est un journal blanc. C'était complètement blanc. Il y avait des cases et c'était vide. Il y avait juste les signatures des dessinateurs et c'était vide. Il a été mis en vente.
Et alors, ça a marché ?
Ben ouais. Et les deux ont marché. Alors, après, ils avaient fait... Voilà, journal responsable.
Ouais.
Voilà. À un moment donné, c'est aussi ce qu'on nous demande d'être. Aussi, avec cette charge symbolique que ce côté...
Mais est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec CNN, avec la mondialisation, avec ce que vous êtes devenu, faire Charlie Hebdo est devenu impossible?
Non, c'est pas impossible, puisqu'on peut le faire encore. Pour moi, c'est devenu compliqué.
C'est pas impossible. Pensez qu'en soi, Charlie Hebdo, une fois que vous serez parti, pourra encore mettre Mahomet à la une.
Vous savez, il y aura toujours des gens qui diraient que c'était mieux avant. Même dans 50 ans, ils diront que l'année d'avant, c'était mieux avant. Donc de toute façon, il pourra y avoir quelque chose qui va, ça peut continuer, ça continuera. Moi, j'y arrive plus, mais pas que pour ça. En même temps, pas que pour ça.
C'est parce que ça vous amuse plus, c'est ce que vous disiez.
Oui, mais c'est parce que parce qu'aussi à un moment donné, on cavale sur une, on court comme des malades sur une pente en fait. C'était un peu de Paul McCarthy dans les années 70 où il courait comme ça sur une pente. Puis à la fin, qu'est-ce qui se passe? Il se casse la gueule. Et moi, c'est ça, en fait. C'est avant de faire des dessins mauvais, avant de devenir dingue, avant d'être asséché complètement, il faut que je passe à autre chose.
Ce qui est fait avec cette...
Ce qui a été enclenché. Et c'est ça aussi qui est un truc pervers, en fait.
C'est plus qu'enclenché, c'est fait.
Oui. Non, mais ce qui enclenche... Le truc qui était marrant, c'est quand j'ai commencé à faire des planches comme ça la nuit sous insomnie, je m'amusais en fait à les faire. Je m'amusais à les faire.
C'est-à-dire que vous avez retrouvé une sorte de plaisir du
dessin. Je me sentais libre aussi de les faire. Ouais. Je me sentais libre parce que c'était... Parce que, je sais pas, parce que je parlais de moi, je me disais au moins, si je parle de moi, on peut pas me juger plus que ça, en fait. Parce que c'est...
Puis vous saviez pas encore forcément que ça deviendrait un livre.
Non, mmh. Non, exactement.
Ce qui rend plus libre.
Ce qui rend plus libre, exactement. exactement. Et que ça n'a pas vocation... Ça, évidemment que ça a vocation à être lu, mais ça avait vocation à être lu avant tout par la femme de ma vie au départ. C'est bête, hein.
Si tu n'es pas le plus mauvais public.
Pas le plus mauvais public. Puis après, elle m'a dit, tu sais que c'est vachement beau. Hein. Enfin, bon, c'est un peu flatteur, je m'auto-flatte. Mais il y avait une planche, enfin, notamment une planche chez Héros, c'était un bateau, ça m'a dit, c'est vachement beau.
Alors, on se dit aussi, il part, parce qu'en ce moment, l'ambiance est à couper au couteau à Charlie Hebdo, avec les deux camps, le camp de la direction actionnaire et le camp des pétitionnaires dont vous êtes, qui demandent davantage de transparence financière, en gros, une répartition plus juste de l'actionnariat. Et voilà, plus de transparence, quoi, en gros, dans la gestion. C'est aussi une raison pour laquelle vous partez ?
Non. Non, non. Non, vraiment. 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 C'est pas le moteur de mon départ. Pas le moteur de mon départ. Je pense qu'il y a, un truc qui existe dans cette difficulté de parler entre nous à Charlie, mais qui est dû à un truc hyper con. C'est qu'on a commencé comme des malades, hyper vite, et qu'on est dans un stade de choc post-traumatique où comment dire, je pense qu'il aurait fallu attendre un peu de temps, prendre un peu de temps, se reconstruire individuellement, collectivement. Je pense que l'intérêt de ce collectif, il est aussi de se dire, il faut qu'on retravaille ensemble, collectivement, etc. Mais on est reparti, tête baissée. Et alors qu'il fallait prendre un peu de temps, parce que c'est très con, mais on a pris un truc dans la gueule assez inédit, et on s'est pas dit, tiens, en fait, y a des gens qui s'arrêtent un mois, deux mois, trois mois, un an avant de recommencer à travailler. On a recommencé à travailler tout de suite, comme si on était comme avant. On peut pas être comme avant. Donc il faut repenser une structure, repenser une ligne, repenser des épreuves,
On se rend pas compte de l'extérieur. Vous vous parlez entre vous, par exemple entre ceux qui aujourd'hui encore peut-être montent sur le tabouret et ceux qui donnent des coups de pied dans le.
Il n'y a plus personne qui monte sur le tabouret.
Oui, alors on va dire dans les deux camps, entre la direction actionnaire et les pétitionnaires, on vous voit échanger à travers les médias, etc. Mais vous vous parlez.
Ouais,
en
parle,
même temps,
ouais.
C'est pas une équipe de 500 personnes. Donc,
non.
Voilà,
on se parle. On se parle. Sauf que le truc, c'est que dès qu'il se passe quelque chose, comme il y a des caméras, des machins, des fois, des rumeurs, des fuites, et des trucs... je veux dire, on est sous une espèce de surveillance médiatique qui fait que dès qu'il y a quelqu'un qui pète, ça se retrouve dans un média, quelque part. Même les pétages de plomb, ça se retrouve dans les médias. Donc, à un moment donné, c'est...
Mais vous parlez encore.
Oui, bien sûr.
Il vous arrive de rigoler ensemble. Hein.
Bien sûr.
Il arrive encore de rigoler avec Rhys, avec Gérard Biard, avec... Sur Gérard Biard.
Non, mais je dis ouais parce que je... parce que... Bon, après, il faut passer au journal. On n'est pas toujours tout le temps au journal aussi. On n'est pas toujours tout le temps au journal. Non, mais c'est comme une équipe, c'est comme ici. Il y a aussi ce truc très bizarre, c'est que on a l'impression, vu de loin, que c'est parce que les gens ont été très choqués, parce que tout le monde sait ce que c'est à l'étranger, etc. On est devenu comme une énorme entreprise. De l'esprit extérieur, parce que c'est comme un bien public, Charlie, devenu comme un bien public. Donc, pour ça, je disais, tout d'un coup, on a l'impression que, avec les millions, les machins, tu vois, genre, c'est Areva, quelque chose comme ça. Genre, attends, mais t'as vu la gueule de Charlie, la gueule d'Areva, je veux dire, même les... Enfin, mais aussi parce que je pense qu'il y a eu un...
les gens sont... Il y a un côté entreprise nationalisée. Moi, j'ai vu ça dans Rue 89, je crois, sur le côté la nationalisation de Charlie, d'une certaine manière, cette réappropriation générale. On a l'impression que c'est une énorme boîte, parce que tout le monde est actionnaire, quelque part. Peut-être que vous l'êtes aussi, quelque part, dans votre tête. Et tout le monde s'intéresse sur qu'est-ce qui se passe. Et puis, c'est une équipe de branque. C'était une équipe de branque avant, et c'est encore plus une équipe de branque maintenant. Et donc, c'est une équipe de branque qui a besoin de se ressouder, qui a besoin de se parler mieux, qui a besoin d'avancer ensemble. Moi, je crois vraiment dans ce truc-là. Et puis, ce qu'il y a, c'est que, par exemple, il y a deux semaines, j'apprends dans mes appart que je pars de Charlie. Ah ouais, super. Bien sûr, j'en ai parlé aux copains. Et j'avais envie d'avoir un peu le tempo de tout ça.
C'est fini.
Mais c'est ça aussi qu'on est vissé dans le truc médiatique. Ouais. Et qu'on est sous une forme de surveillance médiatique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, j'ai plus peur d'un acte terroriste. Moi, j'ai peur que mon téléphone sonne.
Ça m'angoisse. Et que ce soit qui au bout du fil ?
Et qu'on m'appelle et que c'est encore la BBC. Et que c'est encore machin. Et que c'est encore le truc. Parce qu'on veut que je parle. Et parce qu'on ne s'intéresse plus à mes dessins. Parce qu'on veut que je parle.
C'est ça votre peur. Aujourd'hui, c'est
oui,
ça.
C'est ma peur.
C'est ça votre peur.
C'est ça ma peur. Ouais. C'est ça ma peur. Quand Ginette, on parlait de Ginette. Ginette, elle a plus peur, beaucoup moins peur, tu vois, de se faire buter dans la rue, que tout d'un coup, un mec ou une journaliste de machin réussisse. A réussi à trouver mon numéro de téléphone, m'appelle en direct et veut que j'intervienne sur CNN, etc., devant des millions de gens qui n'ont jamais lu mes dessins. Et moi, je dirais une connerie parce que je ne sais pas parler en anglais et que tout d'un coup, ça va encore foutre de la merde et que de toute façon, au bout d'un moment, les dessins, on s'en fout et qu'il faut expliquer pourquoi je pars. Mais je vous encule tous, quoi. Allez vous faire foutre, quoi. Et ça, c'est aussi le truc qui est aussi très, très, très énervant, c'est que que Charlie soit comme un bien public pour plein de gens. Je comprends, parce que c'est aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure, les dessins ne nous appartiennent plus, réappropriez-vous Charlie, si vous voulez.
Et en même temps, j'ai envie de vous dire que, pour moi, aujourd'hui, Charlie est un objet d'enquête journalistique légitime. Ça me paraît légitime, alors c'est peut-être le journaliste qui parle en moi, ça me paraît légitime que les journalistes enquêtent sur Charlie Hebdo.
Et c'est marrant, pourquoi on enquête maintenant et pas avant?
Parce que vous êtes devenu le symbole mondial que, pardonnez-moi, vous n'étiez pas avant.
Quel poids incroyable. C'est-à-dire qu'on est du coup.
Non mais par exemple, on va prendre.
C'est pour ça que. Un motif d'enquête, effectivement. C'est pas très compliqué d'enquêter sur nous parce que de toute façon, il n'y a pas grand-chose à. Je veux dire, il y a quand même une équipe de 15 branquignoles et c'est pas très compliqué. C'est sûr que c'est plus facile d'enquêter sur Charlie que d'enquêter, effectivement, je parlais d'Areva, que d'enquêter sur Areva.
C'est absolument clair. Mais en même temps, il y a des trucs très surprenants. Vous voyez, le Zineb El Razaoui, convoqué pour un entretien préalable à un licenciement. On se dit, mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Ouais, bah ouais.
C'est quoi le fameux?
Bah, j'en sais rien.
C'est vrai?
J'en sais rien. Moi non plus, j'en sais rien. Ça a été
oui, la direction. Comment on a pu lui renvoyer une lettre de.
Oui, je trouve ça complètement con. Ouais.
Vous n'avez pas parlé au.
Ah oui, mais je crois qu'on se parle pas.
Sans rire, vous n'avez pas parlé, vous n'êtes pas allé voir Rhys en lui disant qu'est-ce que c'est que cette histoire, pourquoi tu la convoques?
Non, je ne suis pas allé voir, non. Parce qu'on ne se voit pas.
Comment ça, on ne se voit pas? Bien sûr, vous voyez.
On se voit au moment du bouclage, et puis il n'y a pas grand monde, et puis ça c'est. Apparemment, ça s'est réglé.
Oui, non, on est d'accord. Mais. Vous comprenez que c'est un trick de l'extérieur.
Ouais. Parce que on est. Je sais pas. Moi, je sais pas si je parle beaucoup aux gens là en ce moment, en fait, aussi. Ouais. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est cette connerie? Puis il y a eu un gros machin. Puis finalement, deux jours après, ça s'est. Enfin, un ou deux jours après, finalement, il y a une direction revenue là-dessus. J'ai dit, bon, on va en reparler. Mais moi, je suis déjà un peu parti, je crois, aussi. C'est ça le problème.
Je voudrais qu'on termine par une des dernières planches de votre livre, qui rappelle la planche du début, les petits bonshommes avec les grands yeux. Mais il y a une petite différence.
Mmh. Ouais, il marche. Ouais. Il marche. Mais ça, c'est important. C'est bizarre, hein. Ça, c'était... toutes les pages avaient été faites dans l'ordre de la réalisation. Et peu de temps, j'avais deux, trois trucs à finir. Et puis peu de temps avant la fin, il n'y avait pas de limite. Mais il y avait à un moment donné, je suis retombé sur cette discussion. J'ai repensé à cette discussion. Je suis retombé sur le dessin qu'on a sur ce dessin-là. Et puis j'ai montré à Camille. Et puis elle dit, il y a quelque chose qui a changé. Ouais, c'est marrant.
Ah ouais.
Et j'ai su que c'était la fin du bouquin.
Vous n'en aviez pas pris conscience, vous?
Non. Non. Mais non, pas du tout. Pas du tout. Et je me suis dit, merci, quoi. Et merci une fois le dessin bizarre, mais aussi le dessin qui sort de la tête pour rien. Parce qu'il me sauvait même d'un truc, il me sauvait même de ce livre. C'est-à-dire qu'il me permettait de dire qu'il y avait une chute.
Il a mis le clap de fin.
Ouais. Ouais, il a mis le clap de fin, tout seul. Et c'est pas moi. C'est pas moi. C'est l'inconscient qui a mis ce putain de clap de fin. Et voilà. Et ça donne envie de travailler sur l'inconscient. Ça a envie de travailler libre. Ça donne effectivement pas envie de travailler sur des sujets d'actualité. Parce que finalement, l'actualité, c'est peut-être envie de s'intéresser à l'actualité de ce qu'on a dans le crâne. Et puis par d'autres choses. Hein. Je ne vais pas faire 4, 6, 2, 12, 13, machin, tout ça. Hein. Mais il y a envie de...
Bon, l'inconscient, alors je suis obligé de vous poser la question. C'est quand même la question centrale qu'on se pose. Sur le Mahomet du numéro des survivants, là, du numéro vert. Et je vais laisser notre invité de la semaine dernière, Emmanuel Todd, entre deux vomissements. Ah oui. Je vais laisser vous la poser, ouais. La question fondamentale.
D'accord. Le numéro du 14 janvier, qui est sorti...
Le fameux numéro des survivants. Oui.
Voilà, je veux dire, on a eu droit, de nouveau, avec le patronage de l'État français, après une magnifique manif sous protection de la police, à une caricature de Mahomet en forme de bite. Je veux dire, qu'est-ce qu'il vous faut? Est-ce que vous êtes simplement conscient de...
On la voit là, il y a une controverse. Hein.
Mais non, mais pas du tout, j'ai cité un article de...
controverse.
Mais non.
Mais si, il y a une controverse. Mais il y a une controverse. Luce, le dessinateur, dit j'ai jamais voulu dessiner une bite.
Il faudrait qu'il contrôle mieux son inconscient.
Alors, votre inconscient, est-ce que votre inconscient a voulu dessiner une bite?
Oh, c'est surtout l'inconscient des cons qui voient une bite dans mes dessins, parce que ça veut dire que dans tous mes dessins, il y a des bites partout. Tiens, regarde ça. Voilà. Emmanuel, tu me regardes. Si tu nous lis, je crois qu'il y a encore une bite là-dessus. Je crois qu'il y a des bites, partout. Genre en fait, vraiment, vraiment, vraiment. Alors je m'attendais à un truc sérieux. Je me disais, je vais répondre sur un
sur le fond.
Sur le fond. Et là, je suis absolument atterré. C'est incroyable le nombre de polygones. En plus, il y en a qui ont vu deux bites. Mm. Alors franchement, exactement. Eh ben écoute, mais par contre, ils n'ont pas vu qu'il y avait une chatte aussi.
Oui, c'est vrai.
C'est marrant, ça les obsède plus les bites que les chattes.
Alors, il y a
un petit problème.
On va les laisser réfléchir.
On va les laisser réfléchir.
À ce point. Bon, on a tout dit.
Waouh.
Hein? Qu'est-ce que vous regardez, là?
Bah, je viens de l'ouvrir. Ouais.
Merci.
Merci.
Et bonne marche.
Merci, vous aussi. À bientôt.
Merci de nous avoir suivis.